Bonjour Charles Decaux.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
C'est votre journal des médias, le sommaire du jour Charles.
Téléfoot s'adapte avant sa fermeture, Vivendi rachète Prisma Media, on ne plaisante pas avec CNews, la colère monte à Hollywood et Beethoven, première pop star.
Mais comme chaque lundi, on commence par les audiences du week-end, qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir à la télé?
C'est TF1 qui s'est imposé avec un blockbuster inédit Justice League, Batman, Superman, Wonder Woman ou encore Aquaman ont fédéré 4 100 000 téléspectateurs, soit 18% du public. TF1 est largement leader sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans à 30% de part d'audience. France 3 est deuxième avec les enquêtes de Vera en rediffusion. 3 400 000 personnes au rendez-vous pour 13,8% de part d'audience. Et France 2 suit avec Barry Seal, American Traffic avec Tom Cruise. 3 200 000 téléspectateurs au compteur, soit 13,4% du public.
Ça c'était pour hier dimanche et samedi soir?
Samedi soir, mais ils se sont majoritairement branchés sur France 3 qui proposait un téléfilm policier inédit. Les ondes du souvenir, il a fédéré 5 500 000 de téléspectateurs, soit 22,8% du public. En face, TF1 a bien résisté avec un nouveau numéro de la chanson secrète présenté par Nico Saliagas. 4 200 000 personnes, 20,2% de part d'audience et surtout 28% des femmes de moins de 50 ans. Et c'est France 2 qui a fermé la marche avec Taratata 100% live. 2 600 000 téléspectateurs et 12% de part d'audience.
Culture Média. Et on commence ce journal des médias avec une autre audience très attendue. Nous recevions vendredi le producteur Arthur. C'est l'audience du lancement de District Z vendredi soir, donc sur TF1.
Voilà, sur le papier, les nouvelles sont bonnes. L'émission s'est imposée avec 5 400 000 téléspectateurs, un très bon 26% de part d'audience et un exceptionnel 47% sur les femmes de moins de 50 ans. C'est une bonne nouvelle pour Arthur, vous le disiez, que vous receviez vendredi et qui n'était pas très rassuré niveau audience. Mais à y regarder plus près, la courbe des audiences, elle, n'est pas très bonne. District Z a perdu environ 800 000 téléspectateurs à chaque coupure pub. L'émission a commencé devant 7 millions de curieux à 21h et elle n'en a gardé que 4 300 000 jusqu'à 23h45, ce qui reste, il faut le dire, un score plus que convenable à cet horaire. Mais dans le même temps, District Z a été critiqué pour son concept et un certain manque de créativité. Bertrand Chameroy en parlera tout à l'heure à 10h.
Et puis on vient de l'apprendre, Charles, c'est tout frais, tout chaud. Vivendi est en passe de prendre le contrôle de Prisma Media.
Oui, c'est ce qu'annonce dans un communiqué le groupe contrôle contrôlé par Vincent Bolloré qui continue de se diversifier. Il dit entrer en négociation exclusive avec le propriétaire de Prisma Media qui est le premier groupe français de magazines. Prisma Media, c'est Voici, Géo, Capital, mais aussi Télé Loisirs.
Et les équipes de Prisma Media ont appris la nouvelle dans la presse ce matin en même temps que nous. Il est désormais possible de s'abonner à la chaîne Téléfoot, mais pour 24 heures seulement.
Oui, la chaîne du foot a dévoilé ce week-end de nouveaux forfaits. Un jour, trois jours ou une semaine. Il coûte entre 3,90€ et 9,90€. Alors cette stratégie s'explique par la fermeture annoncée de la chaîne. On l'a apprise vendredi. La Ligue de football professionnelle va récupérer les droits de la Ligue 1 qu'elle avait vendus à Mediapro. Le groupe sino-espagnol n'a donc plus de raison de maintenir en vie la chaîne qu'il avait lancée en août dernier. L'économiste du sport Vincent Chaudel nous explique ce qui attend les 480 000 fans de foot qui s'étaient abonnés à la chaîne depuis août.
Ce que l'on sait à date, c'est que la chaîne devrait finir d'émettre fin janvier au maximum. Et donc, il va y avoir plusieurs perdants dans ce dossier. Il y a les clubs, bien évidemment, les salariés, et puis les abonnés. Il y a plusieurs catégories d'abonnés. Il y a les abonnés sans engagement. Alors eux peuvent sortir très rapidement et sans trop de conséquences pour eux. Et puis les abonnés avec engagement, là, pour eux, il sera très difficile de récupérer les sommes sans compensation, sans réelle prestation. Et puis, il y a les abonnés dans une offre couplée. Et là, il faudra pour eux négocier une contrepartie, une réduction de l'abonnement, bien évidemment.
À noter que c'est jeudi que le tribunal de commerce de Nanterre se penchera sur l'accord conclu en fin de semaine dernière entre Mediapro et la LFP.
Le nombre de journalistes emprisonnés dans le monde est à un niveau historiquement haut.
C'est ce que révèle le bilan annuel de Reporters sans frontières. 387 journalistes sont actuellement emprisonnés pour avoir exercé leur métier, un chiffre très haut mais stable sur un an. Et près de deux tiers d'entre eux sont détenus dans seulement 5 pays, la Chine, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, le Vietnam et la Syrie. Le rapport révèle aussi que la pandémie a fait exploser le nombre d'interpellations ou d'arrestations arbitraires. Elles ont été multipliées par 4 entre mars et mai 2020, au plus fort de la première vague. La plupart ont été relâchés, mais 14 sont encore détenus pour leur couverture liée au Covid, dont la moitié en Chine.
Un feuilleton qui revient, LCI ne demandera pas le canal 14 de la TNT, après la fermeture de France 4.
Oui, un canal 14 qui lui permettrait d'être la première chaîne info dans la numérotation TNT, devant BFM TV 15e et CNews 16e. Mais le patron de l'information du groupe TF1, Thierry Tulier, l'a certifié ce week-end dans une interview au Parisien. LCI n'est pas candidate. Il estimerait injuste de passer devant BFM, mais il souhaite tout de même que les quatre chaînes Info, BFM TV, CNews, LCI et France Info soient toutes regroupées. Pour l'heure, LCI et France Info occupent respectivement les canaux 26 et 27, bien loin de leurs deux rivales.
On reste dans le groupe TF1. Alessandra Sublet a décroché un nouveau prime time.
Elle animera une nouvelle émission de divertissement sur la chaîne TF1 au concept simple. Deux personnalités partageront des duos sur scène, mais ne connaîtront l'identité de leur partenaire qu'après les premières notes. Le tournage du premier numéro est prévu début 2021 et d'autres émissions pourraient être commandées en cas de succès.
Bertrand Huskla préfère ne pas prendre de risques.
Le comédien révélé dans les pastilles humoristiques Brut sur Canal+ a demandé à faire retirer une petite phrase qu'il avait prononcée dans une interview au Monde en octobre dernier. Il expliquait pouvoir se moquer de tout sauf de CNews et il ajoutait qu'il y avait pourtant de quoi dire sur la ligne éditoriale de cette chaîne. Le Monde a indiqué au site Arrêt sur Image qu'il avait accepté de supprimer la phrase pour ne pas mettre Bertrand Huskla dans l'embarras. Ces derniers temps, la direction de Canal+ ne laisse passer aucun écart au sujet de sa chaîne CNews. Le journaliste sportif Sébastien Thoen a été viré après une parodie de l'heure des pros et son confrère Stéphane Guy a été mis à pied après l'avoir soutenu à l'antenne.
Le focus programme du jour, c'est un documentaire sur une pop star qui fait parler d'elle depuis 250 ans.
Oui, c'est comme ça que la chaîne Toute l'Histoire a décidé de présenter Beethoven, le compositeur et pianiste allemand. On célèbre cette semaine les 250 ans de sa naissance et c'est à cette occasion que la réalisatrice Natacha Giller a concocté un film qui sort un peu des sentiers battus. Elle a expliqué sa démarche à Louise Bernard.
Je trouvais ça intéressant de se décaler un peu de la biographie plus classique et d'aller chercher pourquoi il résonnait encore autant chez tout le monde, chez les jeunes générations aussi. L'objectif de ce documentaire, c'était vraiment de montrer son côté, on va dire, pop star. Très populaire, iconique, emblématique. Sous tous les aspects de notre culture contemporaine, Beethoven est là. Que ce soit aussi bien, évidemment, dans la musique, mais dans la musique contemporaine, dans le cinéma, dans la publicité, et de manière plus globale comme un mythe. Donc un peu dans tous nos arts et dans notre culture. Pas forcément une culture pour les privilégiés, mais une culture qui est vraiment accessible à tout le monde finalement. Peut-être ce qui le différencie de d'autres compositeurs de musique classique, c'est que finalement Beethoven parle à tout le monde.
Le documentaire promet de redécouvrir la vie et l'œuvre de Beethoven, mais aussi de voir comment sa musique a inspiré les plus grands cinéastes, les publicitaires et même la musique contemporaine, et de montrer en quoi, au-delà de ses créations, le personnage lui-même continue de fasciner. Rendez-vous ce soir dès 20h40 sur la chaîne Toute l'Histoire.
On traverse l'Atlantique, la fronde monte à Hollywood à la suite de la décision sans précédent du studio Warner.
En 2021, à cause du Covid, Warner sortira simultanément tous ses films dans les salles américaines et sur sa plateforme de streaming HBO Max. Ça représente pas moins de 17 films. Depuis cette annonce qui a fait trembler les exploitants de salles américaines, les réalisateurs de l'écurie Warner sont montés au créneau. Après Christopher Nolan et Denis Villeneuve, Patty Jenkins et Aaron Sorkin ont eux aussi regretté la manière dont ce choix avait été fait sans aucune concertation avec les équipes de films. Des studios partenaires de Warner sur certains films envisageraient même de porter plainte, tandis que le syndicat des réalisateurs a demandé un rendez-vous avec les patrons du studio.
Merci beaucoup Charles Decan. On vous retrouve demain pour un nouveau journal des médias. À demain.